Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kalemi dans les Tanganyika. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Inauguration par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce mardi à Kinshasa de l'usine d'eau à Lemba Imbu. Avec une capacité de production de 35 000 m3 par jour, ce premier module servira à près de 2 millions de quinois, ce qui explique la joie exprimée par le gouverneur de Kinshasa. Et puis, ce coup de gueule de Moïse Katumbi en rapport avec la destruction du lycée Lubusha. Il dit dans un communiqué que les richesses enfouies dans les sous-sols de notre pays ne valent rien par rapport au génie qui sommeille dans chaque enfant congolais. L'invité de ce journal, le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, Billy Kambale, revient sur la rentrée politique de Vital Kamerhe, président de ce parti, annoncé hier à travers une réunion de la direction politique tenue à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La régie des eaux vient d'augmenter sa capacité de production d'eau potable pour la population de Kinshasa. C'est avec l'acquisition d'une nouvelle usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, inaugurée ce mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le premier module de cette usine a une capacité de production de 35 000 m3 par jour pour près de 2 millions de quinois. D'autres détails avec Billy Ivan Lutumba.
Cette usine est située à une trentaine de kilomètres du centre-ville au confluent des rivières Njili et Lukaya. Pour ce premier module inauguré, sont bénéficiaires les habitants de Njili et Kimbanseke où la desserte en eau potable connaît de sérieuses difficultés. L'achèvement du dernier module en 2024-2027 amènera la capacité de production à 165 000 m3 le jour. La cité universitaire Mongafula et d'autres communes du district de Tshangu seront desservies. D'après la note technique de cet ouvrage, l'usine de Lemba Imbu dispose de quelques innovations opérationnelles, contrairement aux quatre autres existantes. C'est entre autres la prise en compte du niveau de l'étiage critique de la rivière Njili à la station de captage, de sorte que durant la période où le niveau de la rivière est au plus bas, l'usine ne manque pas d'eau. Grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirée depuis la station de la SNEL Kimwenza, l'usine de Lemba Imbu fonctionne 24 heures sur 24 et elle dispose d'un grand réservoir à 5 km de sa station. Construite avec l'expertise de l'entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering, grâce au partenariat entre cet État et la RDC, l'usine de Lemba Imbu a ouvert son chantier en mars 2019 et le coût des travaux est estimé à 69 914 000 dollars.
Ainsi donc, la population quinoise, particulièrement celle du quartier Lemba Imbu et ses environs, pourra désormais accéder facilement à l'eau potable et oublier un peu le calvaire qu'elle traversait. C'est ce qu'affirme le gouverneur de la ville de Kinshasa. Tout en remerciant la République de la Corée du Sud qui a exécuté ce projet, Jean-Denis Ngobila promet que le gouvernement provincial veillera à la protection et à la pérennisation de cet ouvrage qui, selon lui, vient répondre à un grand besoin pressant de la population. Écoutez Jean-Denis Ngobila dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Cette œuvre grandiose va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien des populations de cette contrée qui, enfin, a les sourires d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles, exposées souvent à des actes de viol et violence par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines. Maintenant, nos enfants peuvent facilement s'adonner aux activités scolaires en ayant chacun de l'eau potable chez soi. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie. J'invite la population bénéficiaire à la protection des ouvrages de cette entreprise publique et de s'acquitter promptement et intégralement du paiement de toutes les factures de consommation pour mieux permettre à la Régie des eaux de nous servir et de maintenir son bon fonctionnement.
Sous un autre chapitre, le lycée Lubusha, situé à Lucha, dans le territoire de Kambov, est menacé de démolition au profit de l'exploitation minière. Des voix se lèvent pour s'opposer à ce projet, la toute dernière est celle de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République. Pour lui, les richesses enfouies dans les sous-sols de notre pays ne valent rien par rapport au génie qui sommeille dans chaque enfant du Congo. Moïse Katumbi invite tous ceux qui se sentent concernés par la formation et l'éducation des enfants à se dresser contre la destruction de cette école au profit de l'exploitation minière. D'autres détails avec Jean Gandou.
Cette prise de position de Moïse Katumbi est contenue dans un communiqué qu'il a signé depuis la ville de Lourdes en France. Le président de Ensemble pour la République appelle les autorités à se ressaisir en faisant preuve de responsabilité en interdisant la démolition de ce lycée. Pour lui, la jeunesse a la vitalité débordante et ne demande qu'à être éduquée, formée et encadrée pour assurer l'émergence de notre pays. Il renchérit en disant que notre avenir n'est pas dans les mines mais dans l'éducation de nos jeunes et nul ne doit en douter. Faire le choix de petits profits immédiats au détriment de la formation de jeunes filles relèverait tout simplement d'un aveuglement criminel. Voilà pourquoi il dit s'opposer farouchement à la destruction de ce lycée. Ainsi, il promet que dès son retour au pays, il ira à Lubusha apporter tout son soutien au combat des élèves et des professeurs qui les encadrent. Notons que dans un passé récent, les élèves de cet établissement scolaire étaient descendus à Lubumbashi pour dénoncer les projets de démolition de leur école au profit de l'exploitation minière d'une entreprise installée dans le coin. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, incendie dimanche dernier d'une école à Kongolo dans la province du Tanganyika. Des sources sur place indiquent que des inconnus non autrement identifiés ont mis le feu sur une grande partie de l'établissement scolaire Bigogo pendant la journée. Très indigné, le préfet de l'école ne sait à quel sens se vouer. Cet incident intervient à 2 semaines de la rentrée scolaire. Le point avec Paul Mounanga.
Le préfet du groupe scolaire Bigogo dit avoir été alerté par téléphone dans l'après-midi de ce dimanche. Une bonne partie de son école venait d'être incendiée par des inconnus. Et pourtant, dans la matinée, il était à l'école pour organiser les préparatifs des inscriptions pour la rentrée scolaire. D'après lui, les dégâts sont considérables. Alif Moussou Yulubamba signale que l'année passée, son école a inscrit plus de 700 élèves et aligné plus de 100 finalistes aux épreuves de l'examen d'État. Il lance un SOS.
Ce bâtiment organise 4 salles et à l'intérieur de ce bâtiment, il y avait des pupitres. J'ai perdu une affaire de 70 pupitres plus 80 banquettes. Cette école est Bigogo. C'est une école qui organise 4 options dont nous avons la pédagogie générale, la technique sociale, la commerciale de gestion ainsi que la scientifique. Et l'année passée 2021-2022, on avait inscrit une affaire de 700 et plus d'élèves. Nous demandons seulement aux gens de bonne volonté, les ONG, les églises, les gouvernements vraiment de nous venir en aide.
Le sous-préfet de l'enseignement Kongolo 1 déplore cet incident malheureux. Mwenge Binpungu demande au préfet de l'école incendiée d'organiser les enseignements même l'après-midi pour ne pas pénaliser les enfants en attendant de trouver une solution. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
En bref, au Nord Kivu, 7 morts, dont 2 femmes et 2 blessés par machette et des chèvres emportées. C'est encore le bilan provisoire d'une incursion des rebelles ADF dans le village Irangio la nuit d'hier à ce mardi. C'est dans le groupement Banyangala, secteur du Rwenzori, en territoire de Beni. Les sources locales indiquent que ces rebelles ont pris la direction du parc après leur forfait. Alerté, l'armée est arrivée sur place et s'est lancée à la trousse de ces rebelles. Et puis double attaque, Mai Mai signalée ce mardi matin à Butembo. La première a eu lieu contre l'ancienne base logistique de la MONUSCO et la seconde a ciblé une position militaire dans la partie nord de la ville. Le bilan fait état d'un assaillant tué et de capturés au niveau des 2 sites attaqués. Des explications avec Grace Hamzati.
C'est vers 4 heures du matin, heure locale, que des hommes armés ont attaqué la base logistique de la MONUSCO Butembo. Des sources sécuritaires locales affirment que les forces de sécurité ont vite réagi à l'attaque et ont repoussé l'ennemi l'empêchant d'accéder à ses installations situées dans le quartier Kambali en commune de Vulamba. C'est à plus ou moins 100 mètres de l'hôtel des villes. La même source rapporte que 2 assaillants ont été capturés, parmi lesquels se trouverait un déserteur de l'armée capturé arme à la main. Le commandant des FRDC dans la ville, le colonel Epape Mosebo Masebi, que nous avons joint au téléphone, a juste confirmé l'attaque, promettant d'autres détails dès que possible. Dans un communiqué, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu, affirme que l'armée a fait face à un autre groupe de Maïmaï à l'aube de ce mardi dans la cellule Fourou vers le nord de la ville de Butembo. Après échange de tirs, l'armée affirme avoir tué un assaillant et son arme récupérée. 2 autres combattants ont été capturés, ajoute la même source. À présent, le calme est revenu dans la ville et la situation est sous contrôle, indique le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant urbain de la police nationale.
En Ituri, le député national Wilson Adirodou appelle le gouvernement à accélérer la procédure de prise en charge des miliciens favorables au processus de paix afin d'éviter que ces derniers ne commettent des exactions contre la population civile. Il a dit ce mardi à Bounia au cours d'un point de presse, faisant suite aux consultations que mènent les autorités depuis 5 jours avec les représentants des groupes armés signataires des actes d'engagement et leurs leaders communautaires respectifs. Pour cet élu du territoire d'Irumu, le programme de DRC doit être rapidement opérationnel pour le retour de la paix dans cette province. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis le jeudi dernier que les autorités militaires, avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO, consultent les différents membres des communautés Bira et Ngiti, associés aux représentants des groupes armés, forces patriotiques intégrationnistes du Congo, FPIC, et forces de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. L'objectif est d'élaborer un plan d'action des bonnes conduites des miliciens signataires de l'acte d'engagement et de leur prise en charge, en attendant le début du programme 2DRCS. Pour les députés nationaux Wilson Adirodou, le gouvernement doit prendre au sérieux les problèmes de la prise en charge des miliciens en cette période pour limiter les exactions contre les civils.
Il est vrai que nous sommes dans le processus, mais malheureusement nous avons constaté que le processus de DDR-RRC marche à pas de tortille. C'est pour cette raison que nous lançons notre message au gouvernement de la République de s'efforcer pour rendre effectif ce programme, puisqu'il y a des volontaires parmi les groupes armés qui voudraient effectivement déposer les armes et intégrer la vie sociale.
Il salue par ailleurs l'implication du gouverneur des provinces, le général Johnny Luboyankachama, et sa détermination à amener les groupes armés à adhérer aux idéaux du développement et de la cohabitation pacifique. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, quelques cas de criminalité sont enregistrés ces derniers jours dans plusieurs coins de la ville de Mbujimayi. La nuit dernière, par exemple, 2 personnes, dont les curés de la paroisse catholique de Transfiguration, ont été blessées par des bandits armés non autrement identifiés. Le maire de la ville demande à la population de dénoncer les personnes suspectes qui sèment la terreur et la désolation dans la ville. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs coins de la ville sont actuellement touchés par des cas de criminalité. La nuit dernière, les hommes armés, non autrement identifiés, ont fait irruption à la paroisse catholique Transfiguration située dans la commune de Bipemba. Les sources sur place affirment que c'est hors la loi, ont passé à tabac les jeunes qui étaient à la paroisse avant de blesser grièvement les curés venus au secours. La victime est hospitalisée aux soins intensifs dans un centre hospitalier de la place. Pas plus tard qu'hier, une famille a été victime de vol au quartier Bel Air, dans la commune de Lakanchi. Le bandit armé a tiré plusieurs coups de feu en l'air avant d'emporter de l'argent et quelques biens de valeur. Le maire de Mbujimayi, Louis Dontumba, déplore ces faits et demande à la population de dénoncer les personnes suspectes.
La sécurisation de notre ville est l'œuvre de nous tous. Tous les gens qui volent ici habitent sur la ville. L'autre côté, c'est nous-mêmes l'État. Nous devons renforcer la sécurisation. Dans d'autres pays, c'est la population qui dénonce, c'est la population qui permet à l'État de découvrir.
Du côté de la police nationale congolaise, l'on affirme que les enquêtes sont ouvertes pour identifier ces bandits armés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À l'Équateur, près de la moitié d'enfants nouveau-nés ne sont pas allaités. Pourtant, il est recommandé aux mamans de donner le lait maternel exclusif aux bébés durant les 6 premiers mois de leur existence. Le message a été livré par les professionnels de la santé et les autorités provinciales. C'était à l'occasion du lancement hier lundi de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à l'Équateur par la présidente de l'Assemblée provinciale. Éclairage avec Paul-Richard Malengela.
Retardé pour raisons logistiques et de disponibilité des autorités sanitaires, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à l'Équateur a été lancée ce lundi sous le thème « Plus fort avec le lait maternel uniquement ». Le chef du bureau intérimaire de l'UNICEF, qui accorde un intérêt accru à l'enfance, revient sur l'importance de ce thème, Dr Paul Komba.
Au moins 6 mois d'allaitement strict et 2 ans de durée recommandée pour que les enfants allaitent. Les enfants ne bénéficient pas pourtant de cet avantage naturel qui les rendrait beaucoup plus forts. Et donc le faire, c'est nous rendre tous ensemble les enfants et nos communautés plus forts.
L'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois procure plusieurs avantages tant pour l'enfant que pour la mère, la famille et la communauté, ont démontré tous les intervenants. Face cependant à l'ignorance, soit à la négligence des parents, la présidente de l'Assemblée provinciale, Marie-Josée Molebo, a formulé des recommandations.
Nous recommandons à toute la population équatorienne de soumettre leurs enfants au lait maternel dès la naissance. violence jusqu'à 6 mois. Il y a des femmes qui passent beaucoup de temps soit au travail, soit au champ. Nous leur recommandons que ce n'est pas bon d'abandonner les enfants. Au contraire, vous vous créez des problèmes. Parce que quand cet enfant-là tombe malade, tout l'argent gagné, vous allez encore le dépenser pour traiter cet enfant-là. Même si vous allez au travail, qu'on vous amène l'enfant et vous devez têter votre enfant.
Paul Chamanigui, la radio Okapi.
Notez que la sensibilisation avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires va se poursuivre toute la semaine à travers les médias, les églises et les institutions sanitaires, ont indiqué les organisateurs.
Actualité internationale.
Au Tchad, le dialogue national inclusif souverain tarde à démarrer effectivement depuis samedi. C'était en principe ce mardi que les Tchadiens devaient entrer dans le vif de ce dialogue, mais finalement ce sera demain mercredi afin de mettre au point, selon la version officielle, des détails techniques et des logistiques. Ce dialogue national inclusif souverain a un challenge plus important à relever. En Tunisie, des juges soupçonnent des raisons politiques derrière leur révocation. La ministre tunisienne de la Justice est accusée par des magistrats révoqués d'avoir induit les Tunisiens en erreur pour justifier la non-exécution de décision du tribunal administratif le 22 août. Ce tribunal rétablit une cinquantaine des juges dans leurs fonctions et suspend les décisions de leur révocation. Il déplore l'inexactitude du communiqué du ministère de la Justice qui aurait fait croire que des poursuites avaient été lancées contre eux.
L'invité.
L'invité de ce journal est le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Billy Kambale revient sur la rentrée politique de Vital Kamerhe, président de ce parti, annoncé hier à travers une réunion de la direction politique tenue à Kinshasa. Billy Kambale s'entretient à ce sujet avec Grace Amzati.
Monsieur Billy Kambale, bonjour.
Bonjour.
L'UNC a tenu une réunion politique, une sortie politique, c'est lundi 22 août, autour de son président Vital Kamerhe. Que peut-on retenir de cette sortie politique de ces jours?
Il faut d'abord préciser que c'est une réunion normale de la direction politique nationale de l'UNC. Mais aujourd'hui, ça revêtait d'un caractère un peu particulier parce que ça faisait plus de 2 ans que nous ne nous sommes pas retrouvés autour de notre président national. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement sa rentrée politique. Il a présidé cette réunion. Ça tournait autour essentiellement du bilan. Nous devrions lui faire rapport de ce que nous avons fait pendant son absence, notamment l'acquisition du nouveau siège de l'UNC sur avenir de l'enseignement, où nous lui avons remis le certificat d'enregistrement au nom de l'Union pour la Nation Congolaise, œuvre des militantes et militants et cadres du parti qui se sont cotisés pour l'acquisition de ce siège. Nous avons fait le bilan de l'implantation du parti qui aujourd'hui rayonne dans les 145 territoires du pays. Mais aussi, on doit poursuivre effectivement l'implantation pour atteindre les entités territoriales décentralisées, en prévision des élections, bien sûr, de 2023. Nous avons parlé aussi de la situation aujourd'hui préoccupante de l'Est du pays avec cette guerre barbare et injuste qui est imposée encore une fois à notre peuple. Mais le président a précisé que la primaire de son message, il réserve à cette population meurtrie parce qu'il est prévu une grande tournée à l'Est du pays au début du mois de septembre.
Et sur les plans politiques, quelles sont les perspectives de l'UNC selon Vital Kamerhe?
Nos perspectives se résument à l'activisme de notre parti. Nous avons conscience que nous avons un rôle à jouer et nous sommes sur terrain en train de mobiliser nos militants en prévision des élections. Mais aussi, nous savons très bien que nous avons un rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que nous sommes géniteurs du pouvoir en place. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est d'abord et avant tout notre parti qui prime avant toute autre option politique. Et nous travaillons pour la victoire prochaine de notre parti aux élections.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que Vital Kamerhe confirme son lien avec Félix Tshisekedi, le président de la République.
Nous n'avons jamais nié notre lien parce que c'est l'histoire. Nous avons contribué pour que nous puissions avoir ce pouvoir, mais nous disons encore une fois, pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est l'essor de notre parti. Et nous avons tenu à l'exprimer au président national de notre parti pour lui dire qu'il peut compter sur nous. Nous sommes déployés sur terrain et il peut compter sur les filles de ce parti pour faire en sorte qu'en 2023, nous ayons la victoire électorale. En ce qui concerne nos liens, nos partenaires, ce sont des choses qui vont se discuter et nous verrons quel sera notre apport par rapport à l'avenir. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de retenir que notre président a fait sa rentrée politique et il compte bel et bien jouer son rôle en tant que leader dans ce pays.
Et cela à n'importe quel poste qui pourra lui être encore une fois de plus accordé au sein de l'Union Sacrée pour continuer à servir la nation.
Nous n'avons pas d'obsession pour les postes. Les postes n'ont jamais fait l'objet de discussions au sein de l'UNC. Jamais, alors jamais. Nous ne nous sommes jamais réunis pour parler du poste qui doit occuper notre président. Ça, il faut que la population le sache. Aujourd'hui, nous avons nos regards tournés vers la guerre qui se vit à l'est du pays. Et nous savons très bien que notre président a un rôle à jouer. Et c'est autour de ces questions que nous sommes en train de parler et nous évoluons. Donc, nous n'avons pas en tout cas d'obsession pour des postes politiques.
Quelle analyse que vous, l'UNC, vous faites par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'Est et quelles sont les propositions, quelles sont les pistes des solutions pour dénouer cette crise selon Vital Kamerhe?
Non, nous avons dit que la primaire de son message et ses propositions, il réserve aux populations qui sont victimes de ces atrocités. Donc de ce côté-là, vous pouvez garder votre mal en patience, nous aurons le temps d'en discuter. Mais le moment venu, donc pour l'instant, je ne voudrais pas spéculer sur son message. Il est en tout cas en train d'y travailler et le moment venu, vous saurez quels sont les points forts de son message. Et c'est dans pas longtemps, au début du mois de septembre.
Monsieur Billy Kambalé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise. Billy Kambalé était interrogé par Grace Amzati. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.